Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. À partir de plusieurs dates clés de sa vie, cet invité va vous raconter son parcours, ses passions, donc son histoire. Mais les clés d'une vie, vous le savez, ce sont aussi d'autres histoires liées à votre vie. Allez, comme tous les jours grâce à ces clés, j'ouvre maintenant la porte à nos souvenirs. Elle a débuté comme danseuse avant de donner dans ce qui aurait dû être sa carrière un grand coup de balai. Elle s'est parfois cachée derrière son maquillage, alors que dans la vie, la poudre aux yeux, ce n'est pas du tout son truc. Elle signe aujourd'hui des mémoires intitulées VO, VO comme version originale, sans doute parce que dans le monde du spectacle, on ne lui connaît pas la moindre copie. Vous êtes en effet unique. Bonjour Mathilde Amé.
Bonjour Jacques.
Alors, vous publiez donc chez Plon ce VO, c'est un titre original dont on reparlera, ces mémoires. Et ces mémoires, vous racontez votre vie. Et ça tombe bien, parce que dans cette émission, on raconte votre vie à travers des dates clés. Donc, on va évoquer ce livre très longuement tout à l'heure, mais là, en filigrane, à travers des dates. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 5 décembre 1984. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Pas du tout.
Eh bien, c'est la sortie d'un film qui s'appelle Nemo.
Ah d'accord, oui, c'était mon premier film. Alors là, c'était complètement une aventure incroyable, imprévue. Moi, j'étais danseuse. Et puis, y a un agent que j'avais rencontré quand j'étais enfant, qui s'appelle Myriam Bru, qui est venue vers moi alors que j'étais danseuse et qui m'a dit « Tu seras une star ». C'était ses mots. Et puis un jour, bon, elle m'appelait régulièrement, on la prenait pour une folle dans la famille. Et un jour, elle m'a appelée en me disant « Écoute, il cherche une brune qui parle anglais ». Donc, comme j'ai une blonde qui parle anglais, comme j'étais ni l'une ni l'autre, je me suis dit, elle a dû les avoir à l'usure, donc je ne peux pas lui dire non. Et j'y suis allée, j'ai fait les essais, j'ai été prise, et c'est comme ça que j'ai commencé à être comédienne.
Oui, parce qu'au départ, avant la danse, il y avait le violon. À l'âge de 7 ans, vous jouiez du violon, Mathilde Amé.
Oui, j'avais commencé le violon, et puis j'ai arrêté pour être danseuse à 8 ans.
Oui, parce que votre mère voulait que vous soyez danseuse ?
Non, je crois qu'elle était danseuse et c'était sa passion. Et donc, elle m'a transmis sa passion.
Oui, mais en même temps, la danse, c'est un univers difficile. Bon, on se souvient du film L'âge heureux qui a fait le bonheur des enfants des années 60 à l'Opéra Garnier. Mais on montrait un monde difficile et ça a été vraiment des années très difficiles pour vous, Mathilde Amé.
Mais quel est l'apprentissage réel qui ne soit pas difficile ? Je pense que si y a une excellence au bout, il y a une recherche d'excellence, donc forcément c'est difficile. Ce qui était compliqué, c'était les méthodes d'enseignement qui étaient un petit peu archaïques, un peu anciennes. Comme la danse est un milieu un peu isolé, un peu fermé, ils n'étaient pas toujours au fait de l'évolution des connaissances qu'on avait sur la psychologie de l'enfant notamment. Donc à mon époque en tout cas, on apprenait principalement à se taire et à obéir. C'était assez rude. Et en même temps, moi, je trouvais un terrain d'expression, puisque la musique étant le socle de base de ma structure interne, on va dire, danser, ça restait quand même un langage, tout de même.
Il y avait Sylvie Guillem avec vous qui débutait.
Mais oui, quand j'ai fait le stage pour essayer de rentrer à l'Opéra de Paris, j'ai échoué à la fin. Ce stage, oui, je l'ai fait avec Sylvie Guillem, qui était surdouée, qui avait le corps fait pour la danse classique.
Alors, en revanche, l'école, c'était pas du tout votre truc, Mathilde Amé.
À l'école, l'école normale, non. Ouais. Ouais. Non, non.
C'était l'école anormale, plus ou moins.
En échec retentissant, oui.
Ouais. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je n'ai même pas mon BEPC. Alors, j'ai eu honte très longtemps de cet échec. Et puis, j'essayais de me construire malgré tout.
Et vous avez fait d'autres choses et ça a marché. Et vous aviez une qualité très rare, c'est que vous aviez une oreille plus que musicale. Vous entendez tout, Mathilde Amé.
Oui, ce qui est à la fois une souffrance parfois, puisque j'entends... on parle souvent, par exemple, de la violence visible. On ne parle pas trop de la violence qu'on entend. Moi, je l'entends. J'entends une claque sur un gamin, j'entends une façon de parler, de mal parler d'un mari à sa femme, j'entends des roues qui grincent, j'entends tout. Donc c'est plutôt handicapant dans la vraie vie, sauf que moi quand j'écoute la musique, je ne fais pas semblant.
Voilà. Et la musique, vous avez découvert la musique classique d'abord à l'âge de 5 ans en assistant à un concert des musiciens de Paris.
J'avais découvert avant, parce que c'est vraiment... mes parents sont de grands mélomanes, donc je n'ai que des souvenirs musicaux dans ma petite enfance. La musique était présente à la maison tout le temps. Et donc, je crois même que mon premier concert de ma vie, c'était un concert de musique classique. Mais oui, effectivement, à 5 ans, ma tante, qui était violoniste, m'avait emmenée sur les routes avec elle. Et donc, oui, j'avais assisté à de nombreux concerts.
Et Les Musiciens de Paris, ça avait été créé par Catherine Lara?
Non.
Elle est à l'origine.
Non, vous rectifie. Oui. Catherine Lara était premier violon et c'est ma tante Suzy Haïm qui était la fondatrice de cet orchestre de Paris.
Alors curieusement, elle raconte qu'elle l'a créé en sortant du conservatoire, peut-être avec votre tante, parce qu'elle s'entendait pas. Voyez, comme quoi on raconte, comme quoi on fait des légendes. Heureusement que vous êtes là pour le rectifier. Elle nous l'a encore assuré voici quelques semaines. Alors il y a eu aussi une musique classique qui vous a marqué, c'est Daphné et Chloé de Ravel.
Daphné, c'est Chloé. Oui. Jacques.
Daphné, c'est Chloé.
Je vous rectifie.
Merci encore.
Daphné, c'est Chloé, c'était une œuvre qui a été très présente dans mon enfance. D'abord parce qu'elle m'a donné le goût de la solitude.
Pourquoi ?
Parce que une solitude choisie est un plaisir. Et que dans cette solitude, avec Daphné, c'est Chloé, il y a eu une rencontre entre, disons, mon ressenti, mes émotions et ce que la musique... la musique traduisait mon ressenti profond et la grandissait d'une certaine manière. J'ai été élevée au sens propre par la musique et mes émotions prenaient de la valeur, du sens et de la couleur, des images. Ça développait mon imaginaire et je pense que l'imagination, elle se développe dans la solitude.
Et Ravel était quelqu'un d'extraordinaire, le Boléro on le connaît, mais ce qu'on sait peu, c'est qu'il s'est présenté 5 fois au Prix de Rome, je ne sais pas si vous le savez, il a été recalé 4 fois, il a une fois un accessit pour Mira, parce qu'il considérait que sa musique était trop moderne, trop audacieuse.
Ah, il était en avance.
Voilà, exactement. Alors, il y a la musique classique et il y a l'autre musique. Et curieusement, et on le voit dans votre livre, vous en parlez longuement, Mathilde Amet, vous avez une passion pour la musique anglaise. Votre premier choc, ça a été les Temptations.
Oui, j'ai eu un premier choc, mais en fait, ça a été une ouverture vers les mondes. Chaque type de musique, chaque couleur m'ouvrait la porte d'un monde. C'est vrai qu'avec les Temptations, que j'ai découvert en rentrant dans des studios de danse où je devais m'apprêter à prendre un cours de danse classique, tout à coup, j'ai entendu une ligne de basse qui m'a clouée sur place et qui me, d'une certaine manière, comme si ça me réconciliait avec une partie de moi. Enfin, c'était difficile à expliquer, une sensation très physique. Et là, il y a un monde qui s'est ouvert, le monde de la soul, du gospel, du jazz. Il y avait des instruments que je reconnaissais et en même temps, quelque chose de très rythmique, hypnotique. Ça a été un grand choc. Ouais.
Et un autre choc dans un supermarché en écoutant Marvin Gaye.
Oui, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On n'avait pas accès à la musique comme aujourd'hui. Et moi, je ne connaissais que la musique classique. Et puis, oui, une fois dans un supermarché, j'entends Marvin Gaye. Et là, je suis complètement pareil, happé. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Et ça me parle directement. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la musique noire américaine déjà. Et puis ensuite, au jazz rock, au jazz, à la funk, à la P-funk, à la soul, au rhythm and blues.
Tout y est passé.
Tout. C'est ouvert. Et puis après, ça a continué de s'ouvrir sur plein d'autres genres.
Et puis, il y a aussi des dates qui vous ont marqué, des dates qui vous parlent peut-être. En tout cas, celle-là, c'est le 12 mars 1988. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Mathilde Amet.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Mathilde Amet. Vous publiez chez Plomb vos mémoires, VO, on en parle tout au long de cette émission. Mais aussi, nous parlons de dates qui réveillent vos souvenirs. 12 mars 1988, alors je vais vous aider car vous ne savez pas, si je vous parle du Palais des Congrès, d'une soirée où vous allez monter sur scène, une soirée, la 13e nuit des Césars.
Ah, alors donc ça doit être celle où j'ai reçu un César.
Le meilleur espoir féminin pour un film qui s'appelle Le cri du hibou.
De Claude Chabrol.
Vous en souvenez de ce soir-là ?
Ah oui. Ah oui, je m'en souviens parce que c'est un moment très émouvant d'être reconnu par ses pairs. Et si, je ne suis pas très compétitive, mais le César de l'espoir, c'est peut-être celui qui compte. Enfin, pour moi, je le trouve important celui-là parce que symboliquement, il marque un passage, une acceptation par ses pairs. C'est comme si, voilà, c'est le milieu vous acceptait en vous accueillant, en disant on croit en toi. Donc ça fait sens. En tout cas, début d'une carrière, je trouve que ça fait sens.
Et lorsqu'on entend son nom dans la salle et qu'on doit monter sur scène, c'est une surprise ?
Oh ben alors là, j'étais complètement. J'avais des ailes, je crois que j'ai couru alors que je pouvais même pas marcher avec mes chaussures. Et là, tout à coup, je me suis mise à courir. J'avais le cœur qui battait. Il y avait un parterre de stars que j'admirais. Je les voyais quand je parlais, j'essayais de parler. En même temps, je voyais tous ces visages de gens que j'admirais. Bon, c'était impressionnant. Ouais.
Et dans la sélection, les nommés, il y avait Anne Brochet pour Masque, Julie Delpy pour La Passion, et La Passion Béatrice, et Sophie Renoir pour L'Ami de mon ami. Mmh. Sophie Renoir qui s'est reconvertie aujourd'hui, qui s'occupe beaucoup de la maison familiale d'Auguste Renoir, son ancêtre, près de Troyes. Et vous pensiez gagner ce César, Mathilde Amet ?
Non, j'ai jamais pensé, de toute façon, tout ce qui a concerné même ma carrière d'actrice... À la base, j'ai jamais pensé que je serais actrice. Donc, tout ce qui concerne ma carrière d'actrice était absolument inattendu. Et j'avais toujours l'impression d'être en sursis, comme si chaque film devait être le dernier, parce que ça avait été un miracle que j'arrive jusque-là. Et que, il y avait peu de chances que ça continue. Donc, j'étais déjà complètement éblouie qu'on me propose des rôles, que ça continue, que je trouve d'une certaine manière un peu ma place. Après, il y a eu un petit décalage qui s'est creusé entre les projections qu'on faisait sur moi et celle que j'étais en train de devenir.
Ouais. C'est autre chose. Alors, la rencontre avec Chabrol, c'est une grande rencontre parce que c'était un metteur en scène impressionnant et qui vous a impressionné.
Beaucoup. Il m'a impressionné et il m'a surtout donné une clé fondamentale qui est la confiance. Il a eu confiance en moi et quand quelqu'un vous donne la confiance, il vous donne aussi une responsabilité. Il vous donne les moyens de donner le meilleur de vous-même. Moi, il était hors de question que je trahisse cette confiance.
Et puis surtout, il a aussi admiré votre coup de fourchette, car on savait que les tournages de Chabrol, il y a toujours une cantine importante. Et vous qui êtes toute mince, mais vous dévorez, paraît-il.
Je mange, c'est spectaculaire. Hein. Je crois que j'ai une capacité de manger qui est... pas humaine. Et donc, Chabrol, quand il a découvert ça, d'un coup, j'ai eu une côte. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle bouffe ? Et là, j'ai jamais été aussi fière de manger autant.
Alors, Chabrol, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu des films plus difficiles. Vous racontez dans votre livre une scène d'amour à Rome pendant un match de foot à côté. Ça devait être particulièrement dramatique.
Ah oui, ça, je raconte ça. Je raconte que le bar était coupé en deux et qu'il y avait la moitié qui était réservée au tournage et l'autre pas. Donc on tournait une scène très intime, c'était par terre sur des couvertures, tendrement enlacées, et d'un coup on entendait des cris pendant la prise. Hein. Ouais, des scènes de liesse. En fait, il y avait un match de foot à la télé au bar. Voilà. Mais en fait, en Italie, ils tournent très peu en son direct, en tout cas à mon époque. Je parle comme si j'avais 2000 ans, mais enfin, voilà. Peut-être que ça a changé depuis. Mais enfin, quand vous dites livre de mémoire, je vous rectifie peut-être un petit peu parce que j'ai plus l'impression que c'est le récit d'un parcours que j'ai envie de partager, une recherche finalement, une exploration de soi et comment, avec ma réflexion d'aujourd'hui, j'ai cherché à accéder à une forme de liberté plus que, à proprement dit, ce qui m'est arrivé. Vous voyez, c'est une réflexion un peu.
Une réflexion, c'est en même temps, vous racontez votre parcours et notamment, vous avez beaucoup plus réussi au cinéma à l'étranger qu'en France, Mathilde Amet.
Oh, je ne sais pas si ça s'appelle réussir, mais j'ai beaucoup plus tourné, en tout cas, à l'étranger, c'est vrai. Ce qui m'a permis de rencontrer des cultures différentes, des façons de... des comportements aussi, moi qui suis passionnée par le comportement humain et qui est beaucoup observée. J'ai toujours été très fascinée par les différences comportementales, même de gestuelles, de façon de travailler, que ce soit les Italiens, les Américains, les Anglais. Enfin, et puis j'ai appris les langues, c'était passionnant pour ça.
Puis vous avez rencontré des stars. Il y a eu David Soul que vous avez rencontré, Ben Kingsley.
Ouais.
Sur un film qui s'appelle Le Secret du Sahara. C'est impressionnant de rencontrer ces gens-là.
Ouais, moi j'ai beaucoup de... En règle générale, et depuis petite, j'adore admirer. Ça me porte. Et donc, j'étais toujours très impressionnée de rencontrer des personnes que j'admirais. Ouais.
Et Peter O'Toole.
Peter O'Toole, ça a été une très belle rencontre aussi. grand acteur de grande classe, quelqu'un d'un peu avec un fond nostalgique et beaucoup d'humour pour cacher ça.
Et curieusement, on ne le sait pas beaucoup, mais au départ, il ne devait pas jouer Laurence d'Arabie. Le réalisateur David Lean avait choisi un acteur qui s'appelait Albert Finet.
Ah,
et,
ouais.
Et ensuite, Marlon Brando.
Que je connais d'ailleurs, j'ai tourné avec Albert Finet.
C'est lui qui devait jouer le rôle de Peter O'Toole. Et Marlon Brando a été pressenti. Et finalement, c'est Catherine Hepburn qui a suggéré le nom de Peter O'Toole au metteur en scène David Lean et qui a été choisi.
Ça alors.
C'est fou, hein?
Ouais.
Alors, vous avez tourné aussi d'autres films qui sont plus ou moins bien passés. Et vous avez rencontré Richard Gere.
Ouais.
Ça, et c'est un homme très discret finalement.
Très sympathique. Très apaisé, pas du tout star, à la fois, il a une sorte de distance sur les choses de la vie, le métier, tout ça, on le sent très impliqué, mais avec une forme de distance sereine, on va dire, et puis beaucoup de sourires, et il regarde dans les yeux réellement, c'est quelqu'un d'assez authentique, ouais.
Et vous êtes authentique aussi, et on va continuer à parler de vous dans quelques instants à travers une autre date, le 18 janvier 2008. A tout de suite sur Sud Radio avec Mathilde Amet.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Mathilde Amet. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent ou qui vous ont vus à travers une date, 18 janvier 2008, est-ce que ça vous dit quelque chose? Forcément.
Ouais, alors là oui, je crois que c'était la première du spectacle Plus si affinité.
Ouais, et vous dites souvent que votre vie a commencé le soir de cette première.
Alors disons que c'était le départ d'une nouvelle vie où effectivement j'ai décidé quelque chose de très important, j'ai décidé d'arrêter d'attendre. Voilà.
C'est-à-dire de faire ce que vous aimiez et de faire rire, surtout, car on a découvert ce jour-là que vous faisiez rire, Mathilde.
Et je l'ai découvert aussi, parce que, autant je le savais dans le privé, avec les copains, je les voyais rire, mais après, faire rire une salle, c'est encore un autre truc, et j'ai découvert ce soir-là que c'était possible, ouais. Enfin, j'ai entendu d'ailleurs les rires de la salle, et la première fois, j'ai même eu peur, parce que Pascal Légitimus, qui était donc mon partenaire, a vu dans mon regard que j'ai eu peur, j'ai cru que ma braguette était défaite. Je savais pas. Et j'ai réalisé que les gens riaient à ce que je faisais. En fait.
Et alors surtout, cette pièce, vous aviez eu l'idée, vous l'ayez travaillée, vous avez pensé à différentes personnes, il y a eu Didier Gustin, il y a eu Gad Elmaleh, ça n'a pas marché.
J'ai même pas tenté de le proposer à Gad Elmaleh, parce que je ne voyais pas quel intérêt il pouvait trouver à jouer avec moi, alors qu'il était très bien tout seul et qu'il cartonnait. Donc, c'est une amie qui pense à Pascal Légitimus, elle me dit parle-en avec lui, comme producteur, il te donnera son avis. Donc c'était vraiment informel. Et puis quand je lui raconte le principe et je le vois direct en face de moi en train de prendre les personnages que je lui suggère tout de suite, devenir ces personnages physiquement, je me dis, merde, il est super bon. Et il me demande au bout d'une heure, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et je m'en